Homo urbanicus.
Éric Dauterre, bonjour. Prenez vos chaussures de randonnée et venez avec nous. Homo Urbanicus, votre magazine de l'urbain sur Aligre FM, a aujourd'hui décidé de marcher en ville. C'est en fait la troisième édition de la Biennale de Belleville qui nous a inspiré cette idée. Elle est consacrée, au dire de son commissaire général, à la marche, la déambulation, l'exploration. Trois acteurs de la scène artistique y exposent, bien que le terme soit un peu inapproprié, on verra ça tout à l'heure. Trois artistes donc nous expliqueront à tour de rôle leur démarche dans le sens propre et figuré du terme. Nous rencontrerons ainsi successivement Patrice Joly, commissaire de l'exposition, Jacques Clessen qui nous propose avec Patrice Laforêt une promenade hors circuit et Michel Dupuis qui avait Michel Dector et Fleur les Lilas. Chacun à sa manière nous expliquera que la marche peut constituer en soi un art en milieu urbain. Dans ce catalogue non exhaustif des manières de marcher en ville, Pascal Dutertre, vous venez apporter votre contribution d'architecte.
Oui Eric, nous évoquerons la passeggiata italienne et nous croiserons Rousseau en promeneur solitaire et nous vagabonderons aussi à Paris avec Baudelaire.
Pascal, c'est en fin d'émission que plus longuement nous vous écouterons. Retrouvons donc Patrice Joly, tel que je l'ai annoncé, dans le jardin, jouxtant le pavillon carré de Baudouin, siège de cette troisième Biennale de Belleville, bâtiment autour duquel rayonnent les installations, expositions et animations constituant l'événement. On écoute Patrice Joly, donc, dont l'interview a été recueillie alors qu'il faisait beau et que le parc était tout à fait praticable.
Alors on se rencontre à l'occasion de la troisième édition de la Biennale de Belleville, dont vous êtes le commissaire, et que vous avez intitulé « La piste des Apaches ».
Absolument. Oui.
Puisque... Alors on peut peut-être dire qui étaient les Apaches au 19e, voilà, début du 20e.
Voilà, absolument. Donc déjà, les Apaches, c'est une référence en fait aux voyous, aux marginaux, aux gens qui, d'une certaine manière, n'étaient pas complètement insérés dans la société et qui, justement, vivaient, a priori, à Ménilmontant, donc vraiment sur l'endroit où nous situons en ce moment. Et en fait, c'était en gros les gens qui... qui représentait un peu les bandits, quoi. Voilà. Donc, il y a un clin d'œil, je dirais, à... C'était aussi des aventuriers, d'une certaine manière, des marginaux, des aventuriers qui non plus ne vivaient pas la vie du commun des mortels. Donc, il y a une dimension aventurière qui est parfaitement assumée, puisque la piste des Apaches, c'est aussi le titre d'un western. Et voilà, donc il y a une dimension, je dirais, en référence au cinéma, mais aussi en référence à la poésie, puisque l'idée, c'est de justement donner envie aux gens d'aller sur des territoires inconnus et de redécouvrir la ville, et donc de recréer ses propres pistes, ses propres déambulations dans la ville. En fait, on a décidé un groupe de journalistes et de critiques d'art, donc des gens comme Emmanuel Lequeux ou Claire Moulin, donc qui travaillent au Monde ou aux Arts Incorruptibles, à Beaux-Arts Magazine, voilà, de créer un événement qui accompagne en fait la dynamique qui s'est créée dans Belleville autour du squat de la Générale qui a disparu mais qui a bien animé en fait la vie artistique il y a 7-8 ans, je dirais. Et puis on a décidé aussi d'accompagner cet extraordinaire dynamisme des galeries de Belleville qui forment maintenant, je dirais, le troisième pôle, voire le deuxième pôle des galeries parisiennes.
Alors vous, à la différence d'une galerie, vous proposez une découverte en déambulation. La marche dans la ville, ça a quelque chose de spécifique ?
Bon, alors c'est la question, je dirais, fondamentale de c'est la thématique de la Biennale, effectivement. L'idée première, c'est de prendre la marche comme, comme une démarche esthétique en soi. Donc c'est l'œuvre, comme ça c'est pour reprendre les mots d'Amish Fulton, c'est le fait de se déplacer, c'est la marche qui constitue l'œuvre. Donc il y a une dimension chez Fulton plus liée, je dirais, au déplacement dans la nature, mais les artistes qui sont réunis pour faire la Biennale, eux, sont plutôt, je dirais, des explorateurs urbains, comme justement Dector et Dupuis, qui ont l'habitude justement de recréer des tracés dans les villes, à la recherche justement de choses qui sont plus ou moins enfouies. Donc c'est des archéologues du présent, en fait, d'une certaine manière. Après, il y a d'autres types d'explorations plus poétiques, comme celle de Jean-Christophe Normand, lui qui a décidé de réécrire l'Ulysse de Joyce à la craie, à travers la ville, sur plusieurs jours. Donc là, on est, je dirais, dans une démarche qui lie à la fois la déambulation, la performance et l'écriture. Et donc forcément la poésie de la ville, la poésie urbaine qu'on retrouve dans le roman d'Ulysse de Joyce, puisque c'est une balade, pour ceux qui ne savent pas. Ulysse de Joyce, c'est l'histoire d'une déambulation de Stéphane Dédalus dans une journée dans Dublin. Voilà, donc en fait il reprend la trace de cette déambulation dans la ville, mais il l'applique à Paris, à Belleville.
Tout à l'heure, vous parliez d'archéologue. L'artiste est un archéologue. Mais il y en a une qui est archéologue au sens propre, c'est Capucine Weber, qui propose d'explorer les carrières parisiennes.
Oui. C'est, je dirais, un des projets les plus lourds en termes de, comment dire, de montage, puisque Capucine a créé une application, donc qui est gratuitement téléchargeable, comme d'ailleurs l'ensemble de la Biennale, tout est gratuit. Et l'idée, c'est de retranscrire des récits, donc qui ont été pas faits par elle, mais par des explorateurs urbains, donc des gens qui visitent les catacombes, qui visitent les anciennes carrières de Paris, qui ont livré les récits à Capucine. Capucine les a réécrits et surtout les a remis en musique. Donc, quand vous téléchargez l'appli, vous allez la réenclencher quand vous allez rentrer sur zone. Et là, vous aurez à faire un récit souterrain qui, forcément, fera référence au sous-sol de Paris et à la construction de Paris.
Je considère leur cave un peu comme mes greniers. Je n'y reste jamais bien longtemps. C'est une situation que je redoute même par avance. Non pas que je pense tomber sur une quelconque présence, je ne m'y rends que bien après avoir entendu les résonances du dernier métro. Non, c'est surtout qu'elles ne me semblent pas très stables, ces caves. Il faut dire qu'elles sont perchées si haut, construites au-dessus des carrières. J'ai toujours l'impression qu'elles pourraient s'effondrer. Au fond, oui. Au fond, elles sont comme de vieux greniers instables, dans lesquels j'ai la sensation de ne pas avoir mis les pieds depuis des années. Une fois qu'on a fouillé les vieilles malles et rapporté quelques trésors, on est malgré tout bien content de redescendre sur la terre ferme. Les caves des zones pavillonnaires sont toujours plus intéressantes que celles des immeubles. On y trouve forcément quelque chose à grignoter. Et elles recèlent d'objets en tout genre. Des couteaux, des bougies, des livres, des outils. L'autre jour, j'ai même trouvé une guimbarde. Je n'ai pas pu résister, je l'ai embarqué. Ah, j'ai mes adresses préférées dans le quartier. Chaque cave a sa spécialité. Au final, je trouve à peu près de tout. Des bonnes bouteilles, des condiments, parfois même des légumes frais. J'ai pour principe de toujours redéposer les pots en verre des conserves faits maison. Et de ne jamais prendre dans les réserves trop maigres. Ça risquerait de se voir. Je fais en sorte d'espacer les visites dans les mêmes caves. Bon, ça demande du coup un petit peu d'organisation, mais j'arrive toujours à me concocter un repas gourmand. Quand elles n'ont pas de liaison directe avec les carrières, j'y accède par les galeries ovoïdales de l'ancien réseau des égouts. Les raccords sont souvent murés, mais c'est pas bien compliqué de creuser une chatière étroite. Je fais en sorte qu'elle soit la plus discrète possible. Et s'ils s'en aperçoivent, ce qui est plutôt rare, ils doivent s'étonner de n'avoir jamais vu auparavant, puisqu'en général, ils laissent la planche en bois que j'ai pris le soin d'installer pour obstruer le passage.
cette marche en ville que vous proposez à l'occasion de votre édition, de la troisième édition de la Biennale de Belleville, elle va bien au-delà de Paris, puisque vous avez un artiste qui a marché depuis Nantes.
Oui. Bon, on a invité, je dirais, des gens qui sont réellement identifiés à l'art de la marche. Je vous parlais d'Amish Fulton, mais il y a des gens comme Dectoré Dupuis qui sont des grands marcheurs. Et il y a aussi Laurent Tixador qui s'est rendu célèbre pour avoir fait un tour de France, mais suivant un véritable cercle qu'il a fait à la marche, qui a relié Metz au Havre selon une ligne droite. Donc c'est l'idée en fait de...
Et une fois de plus, c'est ça son acte artistique, c'est sa marche elle-même.
Absolument, complètement. Disons que lui, ce qui importe, c'est de prendre des traits sur une carte et puis de les rendre réels. Donc ce qui importe chez Laurent, c'est effectivement le déplacement à travers des zones qui ne sont pas du tout destinées, qui ne sont pas balisées en tant que telles. Donc il emprunte des chemins, il longe des voies ferrées, il longe des cours d'eau, il va longer la Loire, il me semble, jusqu'à Tours avant de remonter. Donc c'est un véritable itinéraire qu'il trace lui-même, et c'est aussi l'occasion de découvrir du paysage qui est complètement inédit. C'est ça avant tout, c'est ça l'objet de sa démarche. Et par ailleurs, il va aussi créer des petites pièces, des petites œuvres le long de sa marche qui seront déposées dans l'exposition Carré et qui, ouvriront, donneront la possibilité aux autres marcheurs, donc des déambulations, de pouvoir participer de cette exposition.
Aligre FM 93.1.
Patrice Joly, on a changé d'atmosphère. On est maintenant à l'intérieur de votre exposition, de la troisième édition de cette Biennale de Belleville, et particulièrement de votre exposition à vous qui s'appelle Camina. Camina, qu'est-ce qu'on a devant nous ?
Alors là, nous sommes devant des peintures de ville, bien que ce soit très difficile de discerner le contour de gratte-ciel ou autre maison. En fait, c'est des impressions que Jean-Christophe Normand a fait d'après ses marches. En fait, ce sont des choses très très abstraites qui correspondent, disons, à une espèce de moyenne comme ça d'impression qu'il a fait de mémoire et qui correspondent en gros c'est pas des peintures impressionnistes encore une fois, mais ça correspond vraiment à une espèce de résumé d'une impression qu'il a eue quand il a fait ses déambulations dans une ville définie.
Ce sont des cieux ou alors des couleurs de tonalités différentes, on va des marrons au bleu ciel en passant par des couleurs très sombres et des couleurs très très claires, des espèces de dégradés.
Oui. Bah, disons que par moments, ça peut faire un peu penser aux nuages de fumée, au smog de certaines métropoles. Et après, c'est vrai que c'est aussi un gris, c'est la couleur dominante des grandes villes. D'une certaine manière, ce gris ardois, ce gris bleu, voilà, c'est effectivement la couleur la plus répandue dans les villes. Et je pense que c'est une façon, en fait, de retranscrire et de retraduire en peinture l'impression qu'on peut avoir en traversant une ville.
Alors derrière nous, si on se retourne, il y a une vidéo signée Amish Fulton.
Oui, donc c'est Amish Fulton, c'est un peu, je dirais, notre figure tutélaire, même de la Biennale, je dirais, d'une certaine manière, puisque c'est le grand artiste du Land Art, qui est lié au Land Art, donc ce mouvement des années 70 aux États-Unis, qui justement préconisait de sortir de la galerie et d'échapper au système marchand, et aussi d'aller installer des œuvres dans le désert pour justement forcer les gens à se déplacer et aller sur place contempler les œuvres. Donc Amish, il a été associé à ce mouvement bien qu'il voilà, il ne s'en réclame pas. Et l'idée, c'est, je dirais, pour lui, la marche, c'est avant tout l'expérience esthétique, c'est l'expérience du déplacement qui compte. Et il a, comme ça, initié un certain nombre de déplacements, de performances, et donc une vidéo d'Amy Schulten qui s'appelle Margaret Walking. Donc c'est une vidéo qu'il a fait le long de la plage sur le littoral sud, je dirais, de Cornouailles, il me semble. Et voilà, l'idée, c'est de mettre en place une chorégraphie très simple. En fait, c'est simplement des gens qui se déplacent le long d'un carré qui est formé par une piscine. Vous voyez ces piscines de bord de mer qui sont tout simplement des murs qui sont édifiés et qui se remplissent à marée haute et qui, à marée basse, quand la mer se dégage, forment des espèces de bassins naturels. Et donc on voit les gens comme ça qui arrivent petit à petit et qui déambulent le long du carré et qui forment une espèce de ronde carrée en fait autour de cette piscine en bord de mer. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, je dirais, et qui fait quelque chose aussi de l'ordre d'une chorégraphie très minimale, puisqu'il n'y a pas de geste dedans, c'est simplement des gens qui avancent avec un espacement régulier. Et voilà, toujours selon les préceptes ou les préconisations d'Amish, l'idée c'est de profiter de cette expérience justement de la marche qui vous confronte directement avec les éléments, avec la nature, puisque dans son travail, ce qui est prépondérant, c'est quand même ce rapport aux espaces vierges et à la nature.
Patrice Joly, on est là devant deux vidéos qui se passent en milieu urbain, dans une ville. Alors, je voudrais que vous me décriviez ces deux vidéos en parallèle. Qu'est-ce qu'elles montrent ?
Ben disons qu'elles montrent tout simplement l'évolution d'un symbole aussi fort que peut l'être un drapeau rouge qui est porté à bout de bras par une personne dans les rues d'une métropole, dans une grande métropole européenne dans les années 70, fin 70, début 80. Et on peut imaginer, je dirais, la portée, la puissance de ce symbole dans les années 70 dans une ville européenne. Et le même geste 30 ans plus tard dans la même métropole, selon le même mouvement, le même rythme. Donc c'est des gens qui du coup qui marchent pas mais qui courent, mais
ils courent dans la rue.
Ils courent dans la rue. Donc au milieu du flot des voitures, donc effectivement, c'est des piétons qui empruntent justement, qui perturbent la circulation. Et c'est un plan séquence hein, qui dure une quinzaine de minutes. Donc c'est du temps réel. Il n'y a pas de coupe. Hein, c'est du direct, je dirais. Et voilà, ce qui est intéressant. C'est de voir, bon déjà on voit défiler tout le paysage, donc la richesse du paysage. On voit en fait que le paysage urbain n'a pas tellement évolué en 30 ans. Mais ce qui par contre a radicalement évolué, c'est le fait que 30 ans plus tard, ce symbole qui était quelque chose de vraiment extraordinairement fort il y a 30 ans est maintenant quelque chose de plutôt bénin et qui ne produit absolument plus de réaction de la part des gens, des piétons et des automobilistes.
Alors Patrice Joly, on va continuer cette visite au sein de cette troisième édition de la Biennale de Belleville dans notre thématique d'aujourd'hui qui est marcher en ville. Toujours à l'écoute d'Homo Urbanicus sur Allegre FM. Et alors avec Michel Dupuis, du duo d'Hector et Dupuis, qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est à une toute autre démarche que l'on a à faire. Écoutez bien, vous allez voir ce que l'on peut dire et imaginer autour d'une simple peau de banane aperçue lors d'une randonnée visite guidée. Une sorte de happening artistique en soi. Michel Dupuis, avec Michel Dector, vous proposez Effleurer les lilas. C'est une promenade que vous avez faite les 27 septembre et 11 octobre. Qui D'abord, d'où est-ce que vous êtes parti et où est-ce que vous êtes allé?
Alors, on est parti du pavillon Carré de Baudouin, qui est le centre de la Biennale, enfin le point d'équilibre de la Biennale.
C'est là où on se trouve en ce moment.
On se trouve, donc c'est ce qui nous paraissait le lieu logique pour démarrer, puisque de toute façon, nous, on aime bien finalement s'approprier des contraintes et on a pris ça comme une contrainte possible. Donc, à partir de là, on a décidé d'aller plutôt vers la limite de Paris, vers le périphérique, et de traverser et d'arriver jusque... il nous a paru que le plus simple, c'était les Lilas, la commune des Lilas. Chaque visite est unique et on accompagne un groupe de personnes qui nous suivent, qui veulent bien être présents avec nous et nous écouter pour essayer de vivre ensemble quelque chose de l'ouverture d'un regard. On fait une visite guidée. On reprend la forme de la visite guidée finalement, c'est-à-dire on emmène les gens, on leur propose des arrêts et on parle. On touche à rien, on repère à l'avance une semaine, au moins une semaine pour repérer les choses. On ne fait qu'une fois la visite et on cherche un itinéraire et on fait une succession d'arrêts qui en soi ouvre un regard dans de multiples directions. Alors ces directions, ça peut être de l'imaginaire, ça peut être d'ordre plastique, ça peut être d'ordre politique, ça peut être d'ordre social, ça peut être d'ordre, des accidents de la vie, des choses, souvent des traces. Souvent, c'est la réalité, finalement, c'est toute la réalité dans toutes ces différentes composantes pour essayer justement de la fixer. D'une manière générale, l'usage qu'on nous propose de faire de la ville nous semble formaté, pré-pensé. Et il nous semble qu'il faut s'écarter de cette manière proposée, que ce soit celle du touriste ou celle de l'homme pressé, enfin, ou celle du patrimoine, etc. Il faut s'écarter de ces manières habituelles pour tout le monde, hein, pour nous pareil, et faire une rupture, interrompre ça pour pouvoir laisser venir autre chose. Pour nous, on ralentit. Dans les repérages, on ralentit la marche. On va lentement, on regarde, on s'interroge sur tout ce qui, a priori, n'a pas besoin d'interrogation. On s'interroge sur les évidences qui paraissent être là de toute éternité, alors que chaque chose, finalement, est arrivée d'une certaine manière, pensée par quelqu'un, voulue au terme d'un accident, au terme d'une dégradation, au terme d'une inscription, au terme d'une mémoire, enfin bref... du coup, la ville se sature de sens et on essaie à certains endroits qui nous touchent particulièrement, on essaie de dévider un petit peu les chevaux de ce sens pour essayer de le faire partager avec un groupe s'il veut bien nous accompagner là-dedans.
Donc on a bien compris, c'est une démarche qui vous anime. Là, vous nous proposez de rentrer dans ce jardin du Carré de Baudouin, donc juste à côté de ce lieu qui abrite la 3e Biennale de Belleville. On rentre dans ce jardin. Alors,
on a cherché, c'était le point de départ, on s'est dit, tiens, on va regarder, on est allé du côté de ces murs, alors ces murs un peu pelés, un peu... D'abord, on a vu qu'il y avait une tension entre le pavillon Carré de Baudouin, qui est une villa de type paladien contemporain, un homme riche à la campagne à l'époque, etc. Et puis des bâtiments qui sont évidemment annexes, qui ne sont pas très bien entretenus, il manque une gouttière... Les murs sont pelés, les fenêtres sont obturées par du bois. Et donc on a vu ici des plaques de peinture qui étaient parties et qui figuraient, il nous semble que ça figure, alors on peut projeter, c'est de la zoomorphie. Hein. Et nous on se dit, là on voit bien qu'il y a en beige devant un lama qui regarde un dromadaire. Sur trois plaques de crépi tombés avec des couleurs différentes. On avait des animaux qui évoquaient, dans l'imaginaire enfantin, et même de tous, comme dans un zoo finalement, un zoo imaginaire, qui évoquaient des continents, et la présence de continents, la possible présence de continents. Et par extension, on s'est dit, alors je ne sais pas si on va le dire véritablement, comment on va faire, on va penser au flux d'immigration et aux présences dans cet espace de Belleville, qui est très riche de ce point de vue-là, de nombreuses populations issues de plein d'endroits du globe qui se croisent ici et qui coexistent, finalement. On fait attention à la singularité de chaque chose, c'est-à-dire toutes les inscriptions repeintes ne se valent pas, toutes les figures d'animaux qui se lisent sur les murs ne se valent pas, et on essaie de leur donner, de faire résonner quelque chose qui est très particulier, très singulier, pour qu'à chaque fois soit un moment particulier et unique qu'on propose de partager à un groupe. Quand on traverse, et on va en face vers l'arrêt du bus. Et donc derrière cet arrêt de bus, il y a un espace, le trottoir est assez large à cet endroit, et sur des fenêtres d'un grand bâtiment qui est la salle des sports de Ménilmontant, il y a une espèce de soubassement un peu aveugle sur lequel il y a de nombreuses inscriptions qui ont été effacées au Karcher. Et puis là, à nouveau, tiens, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé une banane séchée. Et il se trouve que là, il y en a une autre. Et ce n'est pas la même. Hein, parce que la banane qu'on a trouvée, on l'a gardée. Parce que dans notre idée, on allait revenir, on allait montrer ces bananes, mais pour la montrer, il fallait qu'elle soit là. Et comme ça fait déjà un mois qu'on a trouvé la banane, on s'est dit, si on la laisse, elle ne sera plus là. Donc, on l'a prise, on l'a photographiée pour savoir où elle était, on l'a gardée et on pensait la remettre peu de temps avant, la remettre en place. C'est-à-dire, c'est une espèce de mensonge vrai pour rétablir la vérité, pour pouvoir parler quelque chose. Bon, il s'avère que là, finalement, il y a quelqu'un qui est habitué à faire ça. Alors, il y a une banane, il y a un coincement, là, ce qui est quelque chose, un petit bout de papier serré, coincé, alors qui nous a beaucoup, une forme qui nous a beaucoup. Le coincement nous intéresse comme sculpture, et je mets ça de côté, la banane séchée. Alors, plutôt que de s'interroger sur l'incivilité de quelqu'un qui pourrait mettre ça à la poubelle, nous, on s'est dit, cette banane, il y a eu un moment très dur, parce qu'elle est sur un, ce qu'il faudrait peut-être dire pour les auditeurs, c'est qu'elle est sur un appui de fenêtre en métal qui est marron, peint en marron, foncé. Donc, il y a un moment très dur pour la banane, c'est quand elle est jaune, quoi. Là, elle s'offre à la convoitise, voire au geste du balayeur ou du gens chargé de la propreté. Enfin, c'est dangereux, quoi. Et puis, peu à peu, le temps passe, elle se flétrit, elle noircit. Et là, il y a un phénomène d'homochromie, elle se fond, elle se camoufle, quoi, comme ça. Et elle peut rester là, ensuite, très longtemps. Elle dérange personne et personne ne la dérange, justement. Donc, il y a une dimension fictionnelle dans la science et il y a une dimension scientifique dans notre travail artistique, oui, je pense. Il nous est arrivé d'avoir recours à des techniques d'archéologues. Par exemple, à Quimper, dans une exposition au quartier à Quimper, on a tracé au sol des carrés très réguliers pour identifier point par point tous les débris d'une bouteille de bière brisée, dimanche matin, parce qu'il y en a beaucoup sur la place devant le quartier. Et ensuite, on a fait construire un tour de 7 mètres sur 4 en métal avec des ficelles tendues, et on a repositionné très précautionneusement, accompagné de photos et de croquis, chaque tesson de cette bouteille là pour en fait faire une espèce de translation de l'extérieur vers l'intérieur, de la rue dans l'intérieur du lieu d'exposition institutionnelle, une espèce de translation, de relation, pour que d'une certaine manière, évidemment, du changement de statut, évidemment, pour préserver le hasard d'un geste vandale ou un peu violent, peu importe, quoi. Enfin, un geste qui, en tout cas, n'est pas destiné à être pris comme geste artistique. Je ne dis pas que tout le monde peut s'intéresser. Enfin, tout le monde n'est pas forcément intéressé par nos visites, ça, je le comprends bien. Mais, d'une certaine manière, tout le monde sait ce que c'est qu'une visite guidée. Tout le monde a suivi des visites guidées. C'est une forme qui ne fait pas peur, qu'on peut suivre sans se poser de questions. Et, d'une certaine manière, comme les gens ne pousseront pas la porte d'une galerie, mais en revanche, ils suivront facilement une visite guidée, quitte d'ailleurs à ne pas écouter ce qui se dit, parce que c'est ce qu'on fait généralement. On suit la visite et on fait ses petits commentaires à part. Mais en fait, c'est une forme rassurante. Et d'une certaine manière, ça nous a permis, de faire un geste d'ouverture envers un public. Et il est arrivé que des gens qui ne pensaient pas avoir affaire à une visite guidée artistique se soient quand même laissés emmené avec nous et suivi tout au long de la visite et n'ait pas été déçu alors qu'on leur a raconté des choses qui n'avaient absolument rien à voir, ce qu'ils pouvaient attendre.
Alors Michel Dupuis, avec Michel Lecteur, je rappelle que vous avez proposé Effleurer les lilas, qui étaient des visites guidées, mais pas, on peut, voilà, le moment de la diffusion, les visites sont passées, mais il y a une vidéo qui montre vos repérages lors de cette troisième biennale de Belleville.
Une possibilité qu'on a essayé de développer là, c'est de montrer la dimension gestuelle, la dimension à la fois du détail des objets, du grain des choses, et de la gestualité de la parole. C'est-à-dire, film muet, film où on n'entend rien, mais où on voit nos gestes lorsqu'on parle, et les gestes qui sont en relation avec les objets qu'on présente, ou qu'on montre, qu'on désigne, et qu'on déplie, qu'on replie, etc. Et donc, il y a toute une dimension muette et gestuelle, qui d'ailleurs a un côté un peu comique, d'ailleurs, puisque qui rejoint le comique du premier comique, Buster Keaton, des choses comme ça. Mais c'est très, euh, C'est très centré sur les mains, c'est très centré sur le détail, sur le grain des choses, sur la matière, et qui apparaît. Et du coup, il n'y a pas de distraction de la parole, mais on reconstitue de la parole à travers les gestes, ou on l'invente. Et ça nous a paru intéressant de... Alors, une des manières de documenter, enfin, c'est peut-être plus que documenter, d'ailleurs, c'est produire un travail artistique. Finalement, documenter, c'est impossible, mais produire du travail artistique à partir du travail artistique, c'est peut-être possible, et c'est une des façons de le construire.
Michel Dupuis, merci. Dans le Paris touristique, on en voit beaucoup de ces groupes, parfois japonais, précédés de leur guide à fanion, parfois français, sac à dos de baroudeur et chaussures de rando au pied. Mais ceux-ci parcourent des sentiers battus et rebattus au milieu d'un Paris haussmannien et muséal. Ça n'est pas du tout le cas de Jacques Clessen et de Patrick Laforêt. Dans leur hors-circuit, le nom de leur prestation, ils parcourent à pied un sentier urbain hors-piste de 15 km. Ils en ont tiré une vidéo devant laquelle j'ai rencontré Jacques Clessen.
La vidéo est en fait un témoignage en temps réel, puisqu'elle dure dans la continuité totale de la marche, c'est-à-dire 15 km, 3h20 ou 3h25, je crois. On continue.
Alors, c'est une marche de Waouh.
Alors, c'est une marche de Pantin, de la galerie Tadeusz Ropak à Pantin, jusqu'à la galerie Larigagosian au Bourget. Alors, plusieurs choses. Un, pourquoi effectivement Biennale de Belleville et pourquoi Pantin-le-Bourget ? Pas de Belleville. Il faut savoir que jusqu'à l'annexion dans les années 1840-1860 de Belleville, le rattachement de Belleville à Paris, Belleville et le Bourget faisaient partie du département de Pantin. Donc c'était une cohérence historique là-dessus. Ensuite, nous avons donc constaté, comme tout le monde peut le constater, qu'il y a deux galeries qui sont des galeries internationales, des galeries qui sont implantées dans Paris, les deux, mais qui ont ouvert chacune des espaces en périphérie parisienne, de l'autre côté du périphérique, ce qui est déjà assez rare pour des galeries, en plus des galeries des classes internationales. Et donc, nous avons voulu faire un petit peu comme font les alpinistes qui ouvrent des voies, ouvrir une voie entre ces deux white cubes, partir de ces espaces absolument hygiéniques, blancs, superbes, très belle architecture, restructuration totale d'une ancienne chaudronnerie à Pantin pour Tadeusz Ropak, restructuration par Jean Nouvet d'un ancien hangar aérien au Bourget. Et entre les deux, il y a un espace qui est un espace périurbain, un espace qui fait partie de ces espaces non regardés, auxquels personne ne fait attention, dont personne ne parle. enfin, dont personne ne parle, hormis très récemment justement Jean Echenoz dans 3 sandwichs au Bourget, qui décrit très précisément des lieux dans lesquels nous marchons. Mais autrement, ce sont des espaces de mobilité rapide, ce sont des espaces d'échange, alors que nous sommes là dans une mobilité lente et dans des espaces qui, quelquefois, ils ne sont pas interdits aux piétons, mais ils ne sont pas pratiqués par les piétons.
Alors justement, on peut décrire ce qu'on est en train de voir. Vous êtes en train de marcher avec Patrick Laforêt sur une... Il fait relativement beau, vous êtes tous les deux en t-shirt, sac à dos. Sur votre droite, une voie sur laquelle il y a des voitures, une voie assez peu fréquentée. Au-delà de cette voie, un long, long mur. Et sur votre gauche, un paysage de petits immeubles dont on peut supposer que ce sont des HLM. Et bien, pas grand monde. C'est cette espèce de territoire de jonction entre deux villes qui, comme vous le disiez, est inexploré. Alors, ça permet de toucher du doigt à quel point de vue la ville s'étale et à quel point le périurbain devient le nouvel urbain.
Oui, alors oui, sur ce que l'on voit là actuellement à l'image, le long mur que l'on voit à droite, c'est le mur du cimetière appelé cimetière de Pantin ou cimetière de Bobigny, qui est en fait le cimetière parisien. C'est un territoire parisien, plus grand cimetière de France, plus de 17 hectares, 200 000 tombes, 8 000 espèces d'arbres. C'est-à-dire que l'on est là dans une enclave que Foucault prenait en exemple pour parler des hétérotopies. On est dans ce site, une hétérotopie. Et nous avons comme ça, comme je le disais, quand on a fait ce parcours, on l'a conçu, on l'a ouvert comme une voie d'alpinisme. Et donc, on a planté non pas des pitons, parce qu'on n'est pas en montagne, mais des points de vue. Et ces points de vue, ce sont, par rapport à cet espace périurbain, qui est un espace... comme vous le notez, qui effectivement est très désert, en fait. Ce ne sont pas des lieux de vie, ce sont des lieux de résidence. Et je ne pense pas que les habitants aient tous choisi de vivre là. Je pense que s'ils pouvaient vivre ailleurs, certains vivent ailleurs. Mais il faut faire très attention, parce qu'il y a aussi la mutation urbaine extrêmement rapide.
Et on peut dire une chose, c'est que ce n'est pas le pire des territoires périurbains. Il y a des arbres, c'est planté d'arbres. Et il y a une espèce de sentier qui longe la route.
Absolument. Là, nous sommes dans une partie, disons, où il y a un espace public assez qualifié, assez qualifiant. Même on voit là des fleurs, des aménagements floraux faits par... plus loin, quand nous allons arriver au bout du milieu du mur du cimetière, quand on va tourner à gauche, on va arriver sur la Cité de l'Étoile. La Cité de l'Étoile est une des cités les plus... pauvres d'Île-de-France. Hein. C'est une des premières cités construites. Elle a été construite en 1953 par Georges Candélis, architecte, qui avait construit ça à la demande de l'abbé Pierre. C'est une cité qui appartient toujours, d'ailleurs, aux communautés Emmaüs. C'est une cité qui a été classée monument historique. Alors, on pourrait penser que c'est une très très bonne idée de classer ce type de monument, certainement. Mais enfin, pour les habitants, c'est pas un cadeau, parce que ça veut dire que les réhabilitations ont été reportés et différés parce que les coûts de réhabilitation ne sont pas les mêmes quand on est dans des monuments historiques. Et cette cité, si on la voyait telle qu'elle était au départ quand elle a été construite, c'est une cité extrêmement colorée avec des aménagements assez judicieux, surtout pour l'époque, 1953. Mais aujourd'hui, c'est un espace qui est en cours de requalification, heureusement, mais qui est tombé dans un état d'abandon. Il y a une paupérisation des populations extrêmement forte et c'est une cité relativement dangereuse pour les trafics.
Alors, on n'a pas malheureusement les 3h20 de votre balade pour parcourir avec vous tous ces espaces symboliques, ces espèces de totems que vous avez parcourus lors de l'ouverture de cette voie. Est-ce que vous venez de nous en citer un? Est-ce que vous pouvez nous en citer un ou deux autres que vous avez parcourus lors de ces 15 kilomètres entre Pantin et Le Bourget?
Oui, alors il y a à l'autre extrémité, tout de suite, pour rester dans le bâti, à l'arrivée au Bourget, en face du site de la zone aéroportuaire du Bourget, qui est un aéroport, il faut savoir que le Bourget est un aéroport privé, un aéroport de vol de luxe, de VIP. En face, il y a une cité qui s'appelle la cité Julien Dorel. Mais en fait, on va continuer et là, on arrive sur une voie qui s'appelle l'allée Django Reinhardt, qui est une ancienne voie de chemin des fers qui servait à, pour ceux qui connaissent l'université Paris 13, elle est dans les bâtiments de l'ancien d'un journal très très connu au 19e siècle, qui était l'Illustration, qui était un énorme groupe de presse et qui il y avait des installations d'imprimerie gigantesques. Et là, la voie de chemin de fer reliait l'imprimerie à la gare de Bobigny, où arrivait le papier et la pâte à papier. Ensuite, il ne faut pas oublier Bobigny, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est aussi la gare d'où partaient les convois de déportés.
Donc voilà, là, on arrive le long. Tout ça, c'est ici que commence l'ancien terrain de la gare de Bobigny, qui a servi pendant plus de 2 ans de centre de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais environ un peu plus, nettement plus de 20 000 personnes qui ont été déportées d'ici. Les trains partaient d'ici pour des raisons de discrétion et les gens étaient amenés du camp de Drancy, qui est juste de l'autre côté des voies, en bus. Étaient débarqués ici et partaient directement dans le camp d'Auschwitz. Donc on le voit un petit peu, juste ici, ouais. Juste là, toi. Là-bas, on voit au bout le petit colombage avec le toit. Ça, c'est la gare de Bobigny, qui est restée tout à fait intacte en l'état. Et là, juste devant, il y a un hangar qui était le hangar où les trains s'arrêtaient et où les gens étaient emmenés. Aujourd'hui, le terrain a été récupéré par la commune et est devenu un lieu de mémoire. C'est très peu de temps parce qu'il a servi pendant 30 ans de dépôt de ferraille. Ce qui, assez curieusement, en fait, a permis sa conservation en l'état, au sens où la gare est restée exactement dans le même état que dans les années 40, quand elle servait de centre de déportation.
Alors qu'est-ce que, pour conclure ensemble, cette balade de 3h20 que vous avez retranscrit en vidéo, qui est visible pendant toute la durée de cette exposition, mais à laquelle vous conviez également les visiteurs, qu'est-ce qu'elle dit de notre Paris? Qu'est-ce qu'elle dit de la ville?
Elle dit que quand on ne choisit pas ce que l'on voit, mais on peut choisir ce que l'on regarde. Et c'est un peu ça la marche. C'est-à-dire, si, avant de répondre plus précisément à votre question, dire le wallscape, c'est, la marche esthétique, c'est effectivement porter un regard attentif. Et c'est un petit peu, dans notre idée, c'était un petit peu quand on sort d'une galerie où on a eu un regard cultivé, un regard éduqué, et que l'on sort, et que là, on se retrouve plongé dans un, immergé dans un interland de pauvreté un peu désolé, peu qualifiant, bien que ça change, hein, ça change. Ce que ça dit, c'est que ça change très vite. Il y a une gentrification nette que l'on peut observer déjà sur Pantin. Pantin, je pense qu'aujourd'hui, Pantin est en train de devenir une commune qui peut être une adresse que l'on peut dire, que l'on peut dire avec fierté, et ça va petit à petit, c'est-à-dire qu'on continue à avoir un petit peu cette erreur urbaine d'avoir une ville, des villes qui s'étalent, qui repoussent la pauvreté toujours plus loin. Mais là, je pense qu'on le constate quand on arrive au Bourget. Après, c'est fini, on est dans les champs. Il ne faut pas oublier, c'est la route des Flandres aussi. Hein. Donc, c'est la route qui va directement à Bruxelles. Mais la ville, au lieu de se reconstruire sur elle-même, elle continue quand même à s'étaler. Sauf que maintenant, on peut dire aussi qu'on est dans un mixte parce qu'elle se reconstruit sur elle-même en requalifiant des zones qui avaient été abandonnées, qui avaient été des zones où on avait repoussé les populations pauvres et en difficulté. Et actuellement, on est en train de les reconquérir pour des populations moyenne, des classes moyennes, qui s'installent à des coûts au mètre carré moindres que les coûts parisiens.
Donc Jacques Leysen, vous nous proposez encore 2 dates avec Patrick Laforêt pour ce cheminement entre Pantin et le Bourget.
Oui, le 19 et le 25 octobre.
Pour une balade d'environ.
Pour une balade d'environ 3h30.
Alors chaussez vos baskets et venez rejoindre Jacques Leysen et Patrick Laforêt. Merci. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking,
And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Pascal, à l'issue de ces reportages autour de la Biennale de Belleville, on peut donc constater qu'il y a plusieurs façons de marcher en ville. Faisons donc un petit tour de la question.
Oui, Eric, je vous laisse pour cela citer ce que disait Balzac dans La physiologie du mariage.
La plupart des hommes se promènent à Paris comme ils mangent, comme ils vivent. Oh, errer dans Paris, adorable et délicieuse existence. Flâner est une science, c'est la gastronomie de l'œil. Se promener, c'est végéter. Flâner, c'est vivre.
Il y aurait donc plusieurs façons de marcher dans la ville. On peut marcher d'un pas rapide pour attraper son bus, cette manière de presque courir, typique des gens affairés qui n'ont pas de temps à perdre. Il y a une façon sportive avec la tenue adéquate, celle du marathonien des temps modernes qui doit entretenir sa forme. On peut marcher au pas aussi, mais c'est un autre sujet. Et puis, il y a ceux qui se promènent, qui se baladent, qui bagnaudent le nez au vent, qui flânent, qui musardent ou errent sans but. Qui traînent aussi, voire qui se perdent ou qui ne font que passer, les badauds, les chalands.
Alors voyons un peu s'il y a des différences entre toutes ces manières de marcher en ville.
Oui, commençons par la promenade, qui est proche de la balade. On peut promener ses enfants ou se balader, ou encore envoyer balader. On a déjà quelques nuances. Ne pas confondre avec la balade, qui prend deux ailes, qui est un poème chanté. Il y a notre ami Rousseau avec ses rêveries du promeneur solitaire, pas forcément urbain celui-ci. Ma vie entière n'a été qu'une longue rêverie divisée en chapitres par mes promenades de chaque jour, disait-il. Ces promenades qui le font traverser Paris pour aller herboriser. La marche tranquille, loin du monde, favorise le cheminement de la pensée. Elle vagabonde et de rêverie, qui sait, devient sagesse. Un enseignement ? En général, la promenade, c'est une activité sans grande consistance. Ce que l'on fait après le repas en famille, la promenade dominicale, apéritive ou digestive.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère. Et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau.
Il y a aussi la version italienne, la passeggiata, la promenade sociale que l'on pratique aussi en Espagne en fin de journée. Pour le coup, c'est une activité urbaine au sens plein du terme. On urbanise. La bonne société se rencontre sur les Ramblas, sur le Mail, sur la Piazza. On s'habille bien, on salue, on prend des nouvelles, on se pavane aussi. Voyez ma femme, comme elle est élégante, et mes enfants, si mignons. C'est une marche d'aller-retour, on va, on vient, on se regarde ou pas, on ralentit le pas. C'est une activité, somme toute, sérieuse. Il ne s'agit pas de baguenauder, encore moins d'errer.
Alors justement, parlons-en de l'errance. À quel genre d'activité est-ce que cela se rattache ?
Bah, l'errance, ce n'est pas terrible. On erre comme une âme en peine. On erre parce que l'on ne sait pas quoi faire, où aller. Pas de but précis, d'activité valorisante. Dans ce cas, la marche est plus aléatoire, ni sportive, ni urbaine. Plus proche du vagabondage, du spleen, de la neurasthénie ou de la misère. Il y a aussi cette figure du juif errant ou encore celle du wanderer, familier de la littérature et de la musique allemande. Le voyageur perdu dans le monde et dans ses pensées, qui ne trouve ni l'âme sœur, ni refuge, ni réconfort. Car celui qui erre sans relâche ne prend pas racine, il reste seul.
On parle de vagabonds, mais il y en a d'autres qui arpentent les trottoirs, et ce pour les besoins de leur métier.
Oui, vous parlez des créatures qui font le trottoir, la nuit de préférence. Pas d'errance dans ce cas, pas vraiment de promenade non plus, ni de flânerie, car en général le trajet est bien court. On marche pour se réchauffer, pour donner le change. Parfois aussi on court pour échapper à la marée chaussée. Mais parlons plutôt du flâneur, celui qui a suscité tant de littérature et qui plaisait tant aux romantiques puis aux surréalistes, avec un décor privilégié, Paris, la ville lumière, celle qui ne dort jamais, la capitale du XIXe siècle, selon le philosophe Walter Benjamin. D'ailleurs, flâne-t-on ailleurs qu'à Paris ? Sur les pavés de Lisbonne avec Pessoa ? Sur les trottoirs de Buenos Aires avec Borges ? Probablement aussi. Mais Paris, c'est une longue histoire avec les flâneurs, ceux qui ont une autre perception de la ville.
Et quelle est donc cette nouvelle perception de la ville qui serait due aux flâneurs ?
Ben c'est souvent une ville nocturne, elle est pleine de mystères et de dangers. Car à la suite de Rousseau le rêveur, il y a Nicolas Restif, qui traîne toutes les nuits entre le quartier du Marais et de l'île Saint-Louis, dans les bouges et les tavernes, celui qui écrit Le paysan perverti, mais qui travaille en fait pour la police. Et puis il y a Gérard de Nerval qui décrit l'univers des Halles, de Paris, avec son peuple, de marailleurs, de beurriers, de verduriers, poissonniers, mais qui évoque aussi un Montmartre inquiétant. Il y a ensuite Villiers de l'île d'Adam, et puis Huysmans qui décrit aussi le monde de la nuit, une ville étrange peuplée de succubes et d'incubes qui hante les clochers de l'église Saint-Sulpice. Enfin, avec l'époque industrielle, la vision nocturne de la grande ville change. Un Paris émerge avec Balzac, qui voit une ville où 3000 boutiques scintillent, où le grand poème de l'étalage chante depuis la Madeleine jusqu'à la porte Saint-Denis.
D'ailleurs, avec la modernité, la ville s'éclaire au gaz, elle est plus animée, on peut donc la parcourir plus facilement.
Oui, avec Balzac et Charles Baudelaire, Paris devient l'assise d'une mythologie, selon Walter Benjamin, qui théorise la flânerie dans son ouvrage sur Paris. La flânerie est une sorte d'errance, mais une errance voulue, lucide, voire élaborée, qui transforme le monde autour de soi et surtout le monde urbain. Les flâneurs vont instaurer un nouveau rapport à la ville, ils en seront en quelque sorte les arpenteurs, les observateurs, et presque les concepteurs, puisqu'ils vont en façonner une nouvelle image, une vision poétique. Il y a donc une cartographie adaptée à ces mythes de la vie nocturne, où à chaque quartier correspond une histoire, un peuple, un mystère que le flâneur explore au gré de ses pérégrinations. Le flâneur se déplace, va d'un monde à l'autre, il glane selon ses envies. Son déplacement est le garant de cette liberté qu'il revendique, de ne s'attacher nulle part pour jouir de toute la diversité de la comédie humaine.
Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ce thème, et pour cela, on va vous inviter à lire non seulement Walter Benjamin, mais aussi l'Invention de Paris d'Éric Hazan. Éric Hazan, à qui nous laissons la conclusion lorsqu'il cite Baudelaire, extrayant de la vie moderne les propos du poète. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi, voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux. Fin de cet Homo Urbanicus qui a mis ses pas hors des sentiers battus en suivant celui de ses artistes et randonneurs originaux. Ils sont réunis dans la Biennale de Belleville, et ce encore jusqu'au 26 octobre 2014. Merci donc à tous ceux que nous avons rencontrés. Merci à Patrice Joly, grand ordonnateur de cette troisième Biennale de Belleville et commissaire de l'exposition Camina Camina. Merci à Capucine Weber qui nous a confié un extrait sonore de son installation. Nos remerciements vont également à Jacques Lessène qui, avec son compère Patrick Laforêt, nous a fait partager son périple de Pantin au Bourget. Merci enfin à Michel Dupuis qui, avec son comparse Michel Dector, va nous permettre de regarder désormais la vie d'un œil neuf. Comme d'habitude, cette émission n'aurait pas été possible sans ma belle équipe. Merci donc à Pascal Duterte pour sa chronique. Merci à Bernard Millot pour ses précieux conseils techniques. À la technique, justement, c'était aujourd'hui Stéphane Desfossés et Serge Tendero. Merci à eux. L'émission que vous venez de suivre sera prochainement disponible en réécoute via notre page Homo Urbanicus sur Facebook. Vous y trouverez des références bibliographiques, la liste des musiques que nous avons diffusées, ainsi que des liens avec notre thème de ce jour. C'est, je vous le répète, Homo Urbanicus et c'est sur Facebook. N'hésitez pas à vous y rendre et à aimer notre page. On est également présent sur Twitter sous le même nom. Pour toute remarque et commentaire, notre adresse homourbanicus@aligrefm.org. Je répète, Homo Urbanicus, tout attaché, aligrefm.org. @aligrefm.org. On se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Dans cette attente, on vous le demande, à pied, en roller ou en transport, soyez et restez urbains.